And I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer. Yes.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Opening Weekend. Vous aurez peut-être remarqué qu'on ouvre celui-ci avec la voix d'Al Pacino à l'occasion de la remise du prix du meilleur film, de l'Oscar du meilleur film hier soir à Los Angeles pour Oppenheimer de Christopher Nolan. Oppenheimer qui repart avec 7 statuettes. On va en reparler dans quelques instants. Et pour en reparler de cette cérémonie et aussi des films qui sortent cette semaine, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mafili Makelou qui fait son grand retour. Salut Mafili.
Salut Aurélien, salut à tous.
Mais également de Charlotte Escolier, salut Charlotte.
Hello, bonjour à tous.
Et de Julien Bernard, salut Julien.
Bonjour tout le monde, un petit peu de trémolo dans la voix pour Al Pacino. C'était pas très clair. Hein.
Ouais, c'était
ils
pas
ont
très
mis
clair.
Ils ont mis du temps à comprendre.
On a mis du temps à comprendre que, voilà, il a vu avec ses yeux que c'était Oppenheimer, et puis derrière c'était vraiment Oppenheimer. Oppenheimer, je le disais, on va revenir tout de suite. Cet Oscar, c'est une très très grosse performance pour le film de Christopher Nolan. Est-ce qu'on l'attendait comme ça à ce niveau, Julien?
Alors oui, on l'attendait puisque depuis le début des récompenses, il est présent, tout le monde l'a en tête, donc forcément il partait largement devant Barbie qui était plus là pour faire le show d'après moi.
Je suis pas super d'accord, mais ok.
Non mais je dis pas que Barbie était pas important.
Barbie qui repart avec une statuette quand même.
Non mais ce que je veux dire c'est que je trouve ça important aussi que des films comme Barbie... effectivement, soit présent, compte tenu du nombre d'entrées et du boom qu'il a pu faire dans le monde entier. C'est très, très important, sa présence. Et je trouve, pour faire le show peut-être, mais en tout cas, il y avait aussi un discours derrière qui
mais
a pu
positif,
être amené
quand je dis ça,
aux États-Unis, important sur le féminisme, pour les gens qui étaient peut-être un peu moins renseignés. Je trouve ça hyper bien. Et donc, du coup, c'est bien qu'il soit présent. Et voilà.
Mais alors, justement, il y avait Jimmy Kimmel en introduction, qui se demandait pourquoi Greta Gerwig n'était pas nommée dans les meilleurs réalisateurs.
Oui, oui, non, mais on s'est tous posé la question. Hein. Franchement, je...
En tout cas, 7 Oscars pour ce film de Christopher Nolan qui a évidemment fait beaucoup parler de lui. On en a reparlé. Alors, moi, je trouve que c'est une belle récompense pour un réalisateur qui aurait pu peut-être être primé il y a quelques années déjà, hein, que ce soit pour Inception ou pour Le Prestige ou pour les Dark Knight. Enfin, en tout cas, il n'a pas été récompensé jusqu'ici, mais d'autres ne l'ont pas été du tout de toute leur carrière. Et hier soir, il faut quand même signaler aussi que parmi les grands absents, il y a Scorsese avec Killers of the Flower Moon qui n'a pas du tout été récompensé et ce n'est pas le seul. Pauvre créature de Yorgos Lanthimos repart avec 4 statuettes, mais pas forcément les plus prestigieuses. Et puis, on a des belles satisfactions. On le disait quand même, hein, au-delà de tous ces Oscars, évidemment, celui d'Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet qui repart avec meilleur scénario original pour ce scénario écrit par Justine Triet et Arthur Harari. Film qui, d'une certaine façon, trouve son apothéose lors de cette cérémonie des Oscars avec ce prix... assez exceptionnel, il faut bien le dire.
Ah mais quel chemin parcouru. Ils ouais. avaient déjà tout pris au César. Là, ils arrivent aux Oscars. Ils repartent avec la statuette tant attendue. Ils étaient nommés dans 5 catégories. C'était déjà un aboutissement. C'était ouais. presque déjà une récompense suffisante. Mais non, ils ont aussi gagné Golden Globes avec un parcours incroyable. Et c'est vrai que si tu reprends les chiffres, aujourd'hui, le film, il est à 1,8 million. Je crois qu'au bout de la 4e semaine, il était autour de 800 000 entrées. C'est juste improbable. Il a 3 vies.
3 vies. Et par contre, alors, on pourrait presque dire la même chose d'Oppenheimer, si ce n'est que et on l'attendait pas du tout à ce niveau-là d'entrée de recettes en juillet dernier. Là, il redécolle. Est-ce que ça peut relancer sa carrière en salle?
En France, où il va ressortir un petit peu. Après, il est déjà à plus de 4,5 millions d'entrées. Ouais. On en a beaucoup parlé. Il a déjà eu une ressortie avec Télérama, avec les UGCM. Donc, je pense qu'il a beaucoup donné. Il a peut-être besoin d'une petite pause pour repartir. Mais de toute façon, maintenant, il fera partie du catalogue. Il sera présent. C'est un film de patrimoine. Et comme tu le disais, c'est vrai que là, à partir du moment où les récompenses étaient lancées, on avait mis Oppenheimer... en tête, mais si on se repositionne à l'époque justement de la sortie de Barbie et d'Oppenheimer, déjà d'une personne ne pouvait le voir à ce niveau-là, il est à 1 milliard de dollars de recettes.
Pour un film de 3 heures.
Pour un film de 3 heures.
Sur un sujet pas évident du tout, avec aucune histoire d'amour pour l'accompagner, ou en tout cas une petite, mais c'est pas...
Je sais pas, mais si, si on fait un sondage, votre film préféré de Christopher Nolan, c'est peut-être pas forcément Oppenheimer qui va retomber. Mais il coche, entre guillemets, il coche les cases Oscar.
Film historique, etc. Bah, on va revenir dans un quiz tout à l'heure, justement, pour le rapprocher de d'autres succès aux Oscars. À signaler également l'Oscar du meilleur film étranger, ce fameux Oscar qui avait fait couler tant d'encre au moment de la sélection du film qui représenterait la France et qui finalement d'ailleurs n'a pas été dans la sélection finale, c'était La Passion de Dodin, on s'en souvient. Là, hier soir, le film qui l'a emporté, c'est Zone of Interest, ce qui nous permet quand même de dire que la Palme d'Or comme le Grand Prix Cannois 2024 se sont retrouvés au palmarès des Oscars, ce n'est pas anodin. Et surtout, ça permet aussi de faire la distinction avec les Césars, où on s'en souvient, si Simple comme Sylvain avait décroché la statuette de meilleur film étranger, alors qu'il y avait Oppenheimer de nommé, et je crois aussi Zone of Interest. Un commentaire peut-être, on ne vous a pas beaucoup entendu, ma fille et Charlotte, sur ces Oscars, un moment qui vous a marqué peut-être ?
Moi déjà j'étais très contente que la meilleure actrice dans un second rôle soit celle de Winter Break, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé et je trouve cette actrice absolument incroyable. J'ai peur d'écorcher son nom.
Davin Joy Randolph.
Merci beaucoup Julien. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça top. Et puis I'm Just Ken, c'était quand même quelque chose. Hein, on en a pas assez parlé, mais franchement, il a joué le jeu, c'était génial et c'était vraiment drôle et c'était vraiment kiffant, c'était vraiment cool. Et après tu vas me dire c'était là pour le show.
Non,
mais
j'ai eu...
Tu parles de la chanson de Barbie, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi.
Absolument, pardon.
J'ai eu la chanson dans la tête toute la journée.
Horrible, moi aussi, je l'ai encore dans la tête.
Alors, il y en a qui ont peut-être aussi d'autres images dans la tête. Ma Philly, tu retiens quoi de ces Oscars ?
Moi, je retiens que c'était une super cérémonie. J'ai une petite frustration quand même. Et c'est pareil avec les Césars, c'est que je ne vais pas me plaindre qu'il y ait trop de bons films cette année dernière. Mais il y a eu tellement de bons films que, ça, comme tu le disais au début, certains bons films n'ont pas été récompensés. Et Oppenheimer est le grand gagnant cette année. Mais j'ai un petit pincement au cœur pour Killer of the Flower Moon. J'ai un petit pincement au cœur pour d'autres films. Pareil pour les Césars. Et voilà, c'est juste ça. C'est dommage en fait de ne pas pouvoir quand même récompenser un peu tout le monde, parce qu'il y a quand même eu de très très belles performances cette année.
Alors parmi les performances aux Oscars, on notera, si vous avez ouvert vos réseaux sociaux, vous l'avez forcément vu, celle de John Cena qui est arrivé nu sur scène avec juste l'enveloppe pour cacher une partie de son corps, et l'enveloppe pour décerner surtout l'Oscar de meilleur costume. Ça a fait beaucoup beaucoup parler, tout comme aussi Julien à un moment.
Il fallait oser, c'était pas mal.
Il fallait y aller.
T'aurais
osé toi ?
Non, pas du tout.
Et aussi un moment marquant pour les geeks, l'arrivée sur scène de Schwarzenegger et Danny DeVito.
Quel moment, Charlotte peut regarder avec les grands yeux, mais c'était le meilleur moment, Charlotte.
Je sais.
Couple mythique de jumeaux qui a aussi fait une allusion à leur rôle de méchant dans les différents Batman. Voilà. Donc voilà une cérémonie qui, malgré tout, j'ai trouvé à réserver pas mal de petites surprises de ci, de là.
Et il y avait aussi un film qui n'est pas sorti en France et qui a été récompensé de l'Oscar du meilleur scénario adapté, American Fiction, qui n'est pas sorti dans les salles.
Non, tout à fait, puisqu'il est arrivé directement sur Prime Video. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, c'est vrai qu'il n'est pas arrivé avec beaucoup de com' derrière. Donc American Fiction à découvrir dès maintenant, donc déjà chez vous, si vous l'avez par Prime Video.
Et on n'a pas parlé de l'Oscar du meilleur film d'animation.
Et oui, évidemment, et honte à nous, parce que c'est un film dont on a pourtant beaucoup parlé dans cette émission.
Et ce n'est pas Super Mario.
Ce n'est pas Super Mario, non, c'est un autre film dont on a parlé, c'est Le Garçon et le Héron. Le film d'Hayao Miyazaki sorti en France par Whale Bunch, qui était venu à notre émission pour en parler.
Et ils avaient aussi Mon Ami Robot, alors, qui était sorti en France par Whale Bunch.
Il y avait deux films distribués par Whale Bunch qui étaient en compétition dans meilleur film d'animation. Et en tout cas, une belle célébration pour ce film qu'il faut rappeler a quand même atteint le top 3 US à la fin de l'année. C'était aussi une des surprises de cette fin d'année dernière. Donc, d'une certaine façon, la qualité a été récompensée, aussi les succès au box-office et même la qualité internationale. Donc voilà, forcément des frustrations. Je te rejoins aussi, ma fille, par exemple, Perfect Days de Wim Wenders qui décroche pas l'Oscar. Bon, voilà, c'est une petite frustration personnelle, mais c'est malgré tout un très grand film qui l'a gagné. Donc voilà, de belles choses pour ces Oscars, qui nous amène peut-être, Julien, à un quiz sur les Oscars. Alors ce quiz, il faut le signaler, a été fait par par quelqu'un qui n'est pas là ce soir et pour des bonnes raisons. Et c'est Arthur Pavlovski qui fête aujourd'hui son anniversaire. Alors bon anniversaire Arthur d'abord.
Et bien bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Et bon anniversaire Bruno.
Et Bruno.
Pourquoi Bruno?
Eh ben je le dis.
Vas-y.
C'est aussi l'anniversaire de Bruno Podalides, figurez-vous.
Alors si c'est aussi votre anniversaire, écrivez-nous. On le mettra dans la prochaine émission. Voilà.
Bon,
alors
donc, sinon à la fin de l'émission, on peut faire un rappel de tous les anniversaires.
Tous les anniversaires ouais, de en générique. Écoute, voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Donc le quiz Arthur.
Oui, le quiz Arthur, c'est parti.
J'ai demandé à Arthur de me faire un petit quiz sur les Oscars parce que donc il a regardé ça toute la nuit. Et donc, il m'a sorti, allez, 3-4 questions. On va voir si on a le temps.
Allons-y.
Donc, les trois films les plus récompensés depuis 1929.
Oula. Titanic.
Titanic.
Alors, je dirais aussi Ben-Hur.
Ben-Hur.
Et il y a Un Seigneur des Anneaux, je crois.
Le Retour du Roi.
Ah ouais.
Exactement. Avec combien d'Oscars, là, pour les trois?
Oula.
Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 11.
Ah oui, mais les trois ensemble, ça fait 33.
Allez, toc.
Ouais, là, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette conclusion.
Allez, quels sont les quatre autres films du studio Universal ayant obtenu 7 Oscars? 4, il m'en faut.
Je sais qu'il y a Out of Africa.
Yes.
Comment tu sais ça, toi?
Oui, comment tu sais ça?
Bah écoutez, la culture générale, quand même. La culture,
Charlotte. Ah, encore un film de CD, mon film, qui va être un de ces quatre. Est-ce qu'il n'y a pas un film des années 90 dans le lot, un film universal?
Tout à fait, qui avait reçu bon nombre de nominations, mais qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Ou en tout cas, il n'est pas resté dans le patrimoine aujourd'hui.
Parce que j'ai envie de dire Shakespeare in Love.
Mais... Exactement, bien ça. Vu, beau score. Allez, ma fille, il m'en faut deux encore. Spielberg.
Alors Spielberg.
La liste de Schindler.
Joli. Et il m'en manque un. Est-ce qu'un vieux avec Newman?
L'arnaque?
Yes.
Et pas l'arnaqueur.
L'arnaqueur.
Qui était aussi sorti par Universal.
Oh là là, mais on ne fait que là, parler d'Universal ce soir.
Oppenheimer, c'est leur succès. Et avant, les films de Nolan, c'était distribué par Warner, je crois.
Absolument.
Oui, et c'est vrai que bon, Warner a été représenté en minorité aux Oscars ce soir, l'année dernière, mais bon.
Oui, mais avec Barbie, ils sont bien quand même.
C'est ça, hein. Exactement. Et on va en reparler tout à l'heure, parce qu'ils ont un film qui sort cette semaine aussi.
Alors, quel autre film a obtenu 7 Oscars parmi 13 nominations? Donc, pour être clair, c'est la même combinaison qu'Oppenheimer. Ouais,
la question est claire.
13 nominations, 7 Oscars. Et j'ai déjà cité ce film.
Bah, c'est pas Shakespeare in Love, justement.
Shakespeare in Love.
C'est vrai?
Ah, c'est bah, ça.
Voilà.
Trop fort.
Le film dont plus personne ne parle aujourd'hui, mais qui a remporté 7 Oscars.
Et alors, les trois films les plus nommés? Avec 14 nominations.
Il n'y a pas genre Vol au-dessus d'un nid de coucou?
Non.
Ah. Titanic?
Titanic, il est dedans. Alors, il y en a un, je l'ai pas, c'est 1950, donc je vais vous le donner, c'est Eve.
Ah, et de Mankiewicz.
Il y en a un avec deux acteurs mythiques que vous connaissez, qui est sorti. Il y en a un, il chante I'm Just Ken.
Ok.
La Lande.
Merci.
Je ne savais pas du tout que La Lande était parmi les plus nommés de l'histoire. Bref. Bah écoute, merci Julien, merci Arthur pour ce quiz spécial Oscar. Et je crois qu'il est l'heure maintenant de s'orienter vers le box-office US qui nous a réservé une belle nouveauté aujourd'hui. Je le disais, Julien, nouveauté côté US avec la sortie d'un film d'animation qui se fait attendre un petit peu en France. Ce sera pendant quelques jours. C'est quoi?
Kung Fu Panda 4. Alors, les estimations, il démarrait même au-dessus des estimations puisqu'on l'attendait autour de 48 millions de dollars de recettes. Et il affiche 58 millions au compteur 58,3. C'est le deuxième meilleur résultat de la franchise. Franchise qui aujourd'hui cumule à 1 milliard 800 millions de recettes. Donc elle devrait dépasser les 2 milliards avec Kung Fu Panda 3, puisqu'il a rajouté même sur le Worldwide, il est à 80 millions de dollars de recettes pour son opening weekend. Donc très beau résultat.
Franchise qui était quand même endormie depuis quelques temps. Hein. Sur grand écran.
Endormi, oui, puisque le dernier, le Kung Fu Panda 3, date de 2016. Il avait ouvert à 41 millions. Ouais. Et puis, ça baissait, hein, parce que le premier, c'était 60, le deuxième, 47, le troisième, 41. Donc, ce n'était pas évident de relancer cette franchise. Mais entre-temps, il y a eu pas mal de séries d'animation qui ont permis, en tout cas, à la franchise de perdurer ou d'exister auprès des jeunes.
Ouais. Sur les plateformes.
Ce qui est intéressant, c'est donc il a laissé d'une qu'une seule semaine en tête. Mais il a également permis au box-office américain de réaliser son meilleur week-end de l'année avec 135 millions sur l'ensemble des films. Et pour pour dire justement cette belle performance. Alors il est sorti, c'est drôle parce que je regardais, il est sorti en Espagne. C'est vrai qu'en France, il se fait attendre, mais il se fait attendre parce qu'on le sort au moment des vacances. Et en Espagne, il a très bien démarré également. Donc on lui souhaite en tout cas de belles entrées en France.
Et à l'international, il fait du coup.
Et à l'international, il fait 20 millions puisqu'il fait 80 ouais. millions sur le worldwide.
Alors, on retrouve quand même Dune premier à l'international, mais deuxième box-office US.
Alors Dune, vous vous souvenez, la semaine dernière, il avait fait un très bon démarrage puisqu'il avait ouvert à 80 millions US. Il était à 178 millions dans le monde. Cette semaine, c'est 46 millions US. Il est à 157 millions son total aux US. Et au niveau worldwide, c'est déjà 367 millions de dollars. Le précédent Dune, il avait terminé à 108 millions de dollars aux US et il avait terminé à 433 millions de dollars. Donc il est presque déjà au niveau du premier Dune après 10 jours d'exploitation. Alors il est sorti en Chine, ce qui l'a aidé cette semaine puisqu'il a repris, il a récupéré 20 millions de dollars de recettes. Et si on prend quelques exemples, par exemple Prometheus, il a terminé à 402 millions de dollars. On avait Star Trek qui est à 386. Et si on veut aller chercher plus haut, si il veut rentrer dans le top 25 des films SF qui ont atteint les sommets, on va dire, il faut aller chercher du 730, 750 millions de dollars. Je reviendrai plus précisément, si vous voulez le chiffre exact. Il faut aller chercher Matrix Reloaded, qui a terminé à 740 millions de ouais. dollars.
Donc en tout cas, très beau chiffre hein, pour Dune, deuxième partie, qui continue sur sa belle lancée. On va revenir aussi sur le box-office France tout à l'heure. À noter, côté US, est-ce qu'il y a d'autres sorties cette semaine ou,
Donc on peut presque passer directement sur le worldwide. Mais alors on note justement qu'il y a un retour des films américains, puisqu'ils arrivent cette fois, il y a 5 films américains sur le box-office worldwide. Donc on a déjà les deux premiers. Alors après... en troisième position, on retrouve un film taïwanais.
Oui, The Pig, The Snake and the Pigeon, un film visiblement comédie d'action qui a très très bien fonctionné avec maintenant un cumul worldwide à 54 millions de dollars et 20 millions seulement sur le week-end écoulé, alors qu'il n'est sorti que sur un seul territoire.
Après, il y a un film chinois qui est sorti cette semaine, I Miss You, lui qui cumule à 13 millions, donc il est sorti en Chine. Voilà. Ensuite, c'est Lionsgate avec Imaginary, qui est sorti chez nous en France par métro. Lui, il a ouvert à 13 millions. Je crois qu'il avait fait 10 millions sur le box-office US.
Et on va parler aussi de Exuma, film coréen, qui lui cumule 54 millions avec encore 11 millions ce week-end. Bob Marley est juste derrière.
160 millions. Et on retrouve nos deux blockbusters chinois avec Article 20, lui, qui en est à 335. Alors, les deux films étaient sortis pendant
le nouvel an.
Et Pegasus 2, lui, qui est à 472 millions.
Écoute, merci Julien pour toutes ces précisions, tous ces détails. Évidemment, on regardera de près l'évolution de la carrière de Kung Fu Panda, mais qui montre qu'un film d'animation peut démarrer haut encore, parce qu'on était habitué à des démarrages de films d'animation un peu en demi-teinte. Et là, ça donne un bel espoir pour tous les films d'animation importants qui arrivent dans les prochains mois. On enchaîne sans transition avec le box-office France, justement. Est-ce que Charlotte ou Mafili, vous voulez commencer? Mafili, peut-être, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, Mafili, sur ce box-office France. Quel regard vas-tu porter sur ces chiffres? Eh bien, c'est parti.
Eh bien, on commence avec le top 3. Le premier film, donc, c'est Dune, qui continue sur sa très très belle lancée, avec une grosse deuxième semaine. Plus de 871 000 entrées pour un cumul de 2 250 000 entrées. Donc c'est une excellente tenue par rapport à la semaine dernière quand on est à moins 16%. Et pour rappel, à la même période, le premier opus cumulait quasiment 1 600 000. Donc ici, on est quasiment à plus de 600 000 entrées. C'est de très très bon augure. En fin de carrière, on peut dire que Dune 2 va largement dépasser Dune 1, qui terminait à 3 100 000. Et la question qu'on peut se poser, c'est maintenant jusqu'où il va aller. Moi, je me suis amusée, parce que j'avais le temps aujourd'hui, je me suis amusée à regarder à peu près sur quel film il avait à peu près la même carrière, la même période.
Ouais.
Et c'est Oppenheimer. qui est mon petit comparable, car il faisait une première semaine un peu similaire à plus d'un million et des poussières d'entrées. Deuxième semaine, autour de 800 000 entrées. Et au final, on l'a dit tout à l'heure, Oppenheimer faisait 4,5 millions. Mais en face, il y avait quand même Barbie qui était un énorme, énorme concurrent, alors que Dune n'a pas ce gros, gros concurrent, je trouve.
Si je ne me trompe pas, Dune avait démarré en premier week-end 30% au-dessus d'Oppenheimer aussi.
C'est un chiffre que je n'ai pas la réponse, mais je mais je te crois sur parole, Charlotte.
mais Julien, est-ce que tu veux réagir sur cette comparaison d'une Oppenheimer? Est-ce que
de toute façon, on en parlait d'avant. Moi, je suis assez Nolan Villeneuve. Ouais. Je pense qu'on peut les mettre face à face, déjà sur le style de film ou le style de cinéma qui nous apporte. Après, je le vois mal terminer en dessous des 4 millions.
Non, clairement. Après, moi, je trouve que c'est il est hyper bien noté. Il est à 4,6, voire 4,5, je ne sais pas à l'instant T, sur Allociné. Il va avoir un super bouche à oreille. Et c'est vrai que je pense que le film a une vraie belle carrière qui l'attend. Alors voilà, ça reste des hypothèses. Les 4 millions, pour moi, c'est évident. Après, est-ce qu'il peut aller pousser plus loin? C'est la question qu'on se pose et on va voir ce que ça donne, quoi.
Ouais, et puis on est sur un film de science-fiction. On sait que c'est quand même toujours compliqué d'élargir un public vraiment pour aller chercher même des chiffres comme Top Gun, des chiffres comme Barbie. C'est très compliqué sur ce style de film. Après, est-ce que ça va vraiment être pris comme un Star Wars au point que ça devienne populaire? Mais déjà, 4,5 millions, c'est un score phénoménal, incroyable. C'est déjà énorme.
Je ne veux pas calmer vos ardeurs, on n'y est pas du tout. Hein. On est à 2,2 millions pour l'instant.
Mais
4 millions...
je mets la pièce sur les 4 millions.
Mais bien sûr.
Il faut les faire.
Avec
bien
une
sûr.
Baisse qui est très
d'autant petite. Plus, d'autant plus qu'il y a très peu de concurrence à ce niveau-là sur le côté blockbuster. Donc, il a quand même... par rapport à ce que ma fille disait tout à l'heure sur l'été dernier, davantage de place pour exister aussi dans son créneau.
La dernière fois qu'un film a passé les 2 millions d'entrées en 10 jours, c'était Barbie.
Et ben voilà. Tout est résolu, tout est dit.
Et moi, j'ai une anecdote, parce que je me rappelle du podcast que vous avez fait avec l'équipe de Warner, où ils disaient que l'objectif sur ce deuxième Dune était d'aller chercher plus les 15-24 ans. Chose qui n'était pas super présente sur le premier et qu'ils avaient réussi sur Wonka. Et moi, j'ai pas mal de jeunes autour de moi qui sont déjà allés voir le film 2 ou 3 fois. Parce qu'ils l'ont vu une fois, ils l'ont adoré, ils ont parlé à leurs copains 2, 3 fois. Donc je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui est autour avec les jeunes, qui se passe autour de ce film-là et qui fait qu'il peut l'emmener très, très haut, en fait. D'où le potentiel 4 millions dont on parle déjà.
Bah, c'est possible, hein, mais on espère. On fera peut-être un débrief là-dessus à l'occasion avec des personnes de Warner quand le film deviendra le plus gros succès de l'année, peut-être.
C'est possible. En tout cas, il sera dans le top final.
Il sera certainement dans le top 10, voire le top 5.
Et aux Oscars l'année prochaine.
Eh bien, écoutez, la transition est établie.
Fallait que je la fasse.
Alors, je crois qu'on n'est pas revenu sur le chiffre global d'entrée sur le week-end la France. Est-ce que quelqu'un là, devant les
on
yeux...
était à 2,8 millions.
Ouais,
ça respecte...
Dernier week-end de vacances, hein, quand même, à signaler sur les vacances.
Oui, il n'y a plus qu'une seule zone. On est à moins 15 par rapport à la semaine dernière. On est à moins 8 par rapport à 2023. Donc on va dire qu'on est toujours en dessous, j'aime bien faire un peu de fois la météo, en dessous des normes de saison, mais ça reste sain, ça reste positif, mais on est en dessous des normes de saison. Si on reprend 2019, on est à moins 25, on est à moins 21. Alors j'ai repositionné exactement sur « il restait plus qu'une semaine de vacances ». Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Il y avait 8 titres qui ont passé les 100 000 entrées, donc ça c'est plutôt positif. Il y a toujours quand même la concentration de Dune qui représente 36% du marché. C'était à peu près 30% pardon du marché. C'était exactement la même chose que la semaine dernière. C'est là où c'est fort, c'est qu'il a perdu aucune part de marché. Si tu prends les 2 premiers films, c'est 36%. Si tu prends les 3 premiers films, on est à 42%. Et on retrouve 6 films français dans le top 10.
Et une première nouveauté à la 4e place, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord la 2e place, ma fille, ou Charlotte, je ne sais pas.
La 2e place, c'est donc Anthony Hopkins qui continue donc la sortie de SND pour son 3e week-end, une vie qui cumule donc à l'issue de ce 3e week-end plus 200 169 entrées. Ce qui lui fait un total en dessous du million, hein, mais on s'en rapproche très 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 vite, puisqu'il fait 984 720 entrées. Pardon.
Ce sera le sixième titre à passer le million d'entrées cette année. Puisque...
Sachant que le cinquième, on va en parler dans quelques instants.
Exactement.
Voilà, et puis en plus, il a une baisse globalement assez basse, hein, puisqu'il descend de 24% par rapport à la semaine dernière.
Semaine dernière, il avait déjà descendu de 25%.
Exactement.
Donc, très stable.
Merci. Et ensuite, je pense qu'il va aller cibler quelque chose dans le top 10 qu'on a un petit peu moins, c'est-à-dire les seniors. Donc, on va aller les chercher grâce à ce film, en tout cas. Donc, ça, c'est bien. Et il est au-dessus hein, de films comparables comme Fablemans, où il va être 5% au-dessus, L'Abbé Pierre, ou encore bon, Anatomie d'une chute, qui a une carrière très particulière, mais il va être 30% au-dessus. Donc, on peut lui imaginer une fin de vie, en tout cas, à minima, à 1,2 million. Et donc, on espère qu'il ira chercher les 1,4 million, hein, du coup.
Mais là, pareil, hein, ça semble être une évidence, mais c'est quand même complètement fou qu'un film comme Une vie arrive à passer le million d'entrées aussi facilement au bout de 3 week-ends quasiment, enfin 3 semaines en tout cas, ça c'est sûr, c'est quand même assez exceptionnel.
Absolument.
Et un beau travail de la part d'SND après Une tresse en fin d'année dernière et après évidemment Cocorico aussi en ce début d'année qui parvient à réitérer le passage du million, c'est assez impressionnant.
En 3 week-ends, aller chercher le million d'entrées, être devant, comme tu le disais déjà, Anatomie, Fableman, c'est incroyable.
Troisième place.
Et bien, troisième place, on reste toujours sur notre studio de Paramount, Bob Marley, donc One Love, qui va faire une carrière toujours assez incroyable puisqu'il va rajouter 147 000 entrées à l'issue de son quatrième week-end pour atteindre 1 684 799 entrées. Il vient battre là-dessus tous les films similaires hein, qui peuvent être Napoléon, Rocketman ou encore Elvis. Après, il chute quand même de 43%. Donc, on peut imaginer une fin de vie à 1,7 million, 1,8 million hein, peut-être. Je ne suis pas sûre qu'il passera la barre des 2 millions. Julien, dis-moi si je me trompe, mais je n'y crois pas beaucoup.
1,7 million, il y est quasiment. Il y a 1,684
million. Oui, donc 1,8
million. Ah, plutôt à 1,8 million, 1,9 million. Mais bon, on verra. Peut-être le
million. Exactement. À voir. Et ensuite, on a donc une autre sortie de SND, Mafili.
La première sortie de la semaine dernière.
Et donc, il y avait le positif, mais il y a aussi un petit peu de négatif quand même, non ?
Moi, j'allais dire que c'était un démarrage assez timide pour Bolero. Moi, je le voyais arriver très, très gros. Et pour sa première semaine, on a 139 000 entrées. Ouais. Si on prend les précédents films de Anne Fontaine, par exemple, Président démarrait à 213 000 entrées. Donc, on était quand même un peu au-dessus. Après, les deux autres films qui étaient Police, bon, on n'a pas du tout marché, et le précédent c'était Blanche comme neige, pareil, il n'avait pas du tout marché, donc je ne les compte pas dedans. Et aussi, si je réfléchis en termes de démarrage, on est à peu près dans les mêmes eaux que Les Innocentes, sorti en 2016, aussi réalisé par Anne Fontaine, qui avait fait 136 000 entrées. Sauf que le film avait eu une carrière assez incroyable, où avec un très très bon bouche à oreille, un très bon maintien, il avait fini sa carrière à 700 000 entrées. Donc, j'ai envie de dire qui c'est.
Et puis en plus, je crois que ce film...
Belle démonstration.
C'est magnifique.
Et si je dis pas n'importe quoi, je crois que c'est un film qui a coûté très cher.
12 millions.
Bolero, voilà, 12 millions, voilà.
Bah, c'est un projet qui lui tenait à cœur, visiblement, qu'elle a essayé de monter depuis plusieurs années. Et bon, c'est sûr qu'on pouvait potentiellement s'attendre à un démarrage un peu plus élevé.
Au niveau du public, il y a déjà Une vie qui lui pique pas mal de son public.
Je pense que c'est ça, c'est Une vie qui joue les troubles faits aussi. Hein,
après, je suis d'accord avec Mafili, 136 000 entrées, si je ne me trompe pas, ou par là en tout cas, c'est décevant que ce soit par rapport au budget, même par rapport aux attentes. Là, si on prend juste, comme disait Mafili, on ne sait pas où il va terminer, mais pour l'instant, il est sur du 400 000 entrées. Donc forcément, c'est décevant. Même les tracking le mettaient plus haut. On était plutôt autour de 200-250 000 entrées. Coco, avant Chanel, il avait ouvert à 353. Donc à voir. Et il y a de la concurrence sur le public senior. Donc pas évident.
Et alors après, on enchaîne avec nos trois films français dont on a déjà parlé pas mal de fois ces derniers temps. Maison de retraite 2, Chien et chat et Cocorico. Alors là, le tiercé, c'est dans cet ordre. Mais là encore, ça se joue à peu d'entrées près. Hein, la semaine dernière, déjà,
un poil de chien.
Je ne serais pas permis. toujours est-il que donc Maison de retraite 2 apparaît à la cinquième place de ce classement. Avec un coef assez fou, ma fille.
Oui, on a un coef qui est à 45,8%.
Le coefficient Paris-Provence, Tom n'est pas là pour l'expliquer, mais vous pouvez écouter les anciens podcasts pour le comprendre.
C'est pas 45,
plus il est près de 1, plus le film est parisien. Et... Et plus il s'éloigne, plus c'est un film
45,8, ça veut dire oui, qu'il y a 45 fois plus de gens qui n'habitent pas Paris qui sont allés le voir cette semaine.
Alors là, on arrive à un moment où il ne joue plus dans Paris, donc forcément, le COEF, il augmente. Mais ce qu'il faut surtout retenir, ça veut dire qu'il marche en profondeur, il continue d'exister, et ça tient, il a une très bonne tenue.
Et hier soir, il y avait le premier qui passait sur TF1,
qui a cartonné en audience.
6 millions de téléspectateurs, donc peut-être que ça va aussi relancer un peu la carrière du film, je ne sais pas.
Il est seulement à moins 17% par rapport au premier Maison de Retraite, qui avait terminé à 2 millions. Donc si il continue à tenir comme ça, parce qu'on s'est dit qu'il allait s'arrêter un petit peu plus tôt, il va continuer à monter et passer cette barre des 1,5 million.
Hein. C'est quand même assez fou comment on est dans un marché de continuation. Quoi.
Il y a
un seul démarrage dans le top 5, c'est Boléro, et après on est à 8-9.
Et après voilà, donc alors sixième place, Chien et Chat, Charlotte.
Bah oui, Chien et Chat qui va rajouter 125 000 à son cumul. Il dépasse le million. Voilà, donc c'est notre premier millionnaire.
Cinquième film de l'année à passer le million.
Absolument.
Et premier de cette semaine.
Et c'est très bien, hein, c'est des très très beaux chiffres. Gaumont doit être très content.
Mais c'était pas gagné.
Non, pas du tout.
On l'a répété. On l'a répété qu'il a eu un démarrage un peu poussif, mais on y a tout.
Les vacances l'ont beaucoup aidé. Hein.
Voilà, mais c'est vrai qu'on s'est dit après la deuxième semaine, il commençait à avoir les indicateurs plus positifs qui montraient qu'il avait le potentiel pour aller chercher un million.
Bah, c'est un film très familial et en vrai, il y en a peu. Donc, il y en a peu dans le marché actuellement. Donc, c'est un peu le seul. Donc, les familles vont le voir encore plus pendant les vacances et ça a boosté complètement ses entrées. Donc, c'est très, très bien.
C'est sûr que si tu rajoutes... Alors, il y a le dernier Jaguar. Et si tu rajoutes un film d'animation, est-ce qu'il aurait eu le temps de s'imposer? Moi, je pense que oui. Mais parce que c'est pas le nombre qui fait. Parce que les gens, de toute façon... Alors, tu fais des choix, t'as pas le temps de voir tout. Hein, mais sur les films public-famille pendant les vacances, c'est pas le fait de rajouter. C'est par rapport au potentiel du film. Soit ça plaît. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que... sur les films français familiaux, c'est très compliqué en fait. On se dit d'aller chercher le million d'entrées, ça se fait tout simplement. Mais du Cobu, il y arrive, mais c'est très rare. Après, tu as les films un peu Dernier Jaguar, Mia et le Loup, mais c'est très rare. Sinon, ça s'arrête souvent entre 500 et juste avant 1 million d'entrées.
Oui, c'est vrai. En fait, la concurrence principale, c'était le Dernier Jaguar, mais qui se retrouve... collé, mais quand même en dessous. Donc.
Et Philippe Lachaud, hein, qui retrouve le million d'entrées.
C'est
quand même assez fou à quel point il arrive à rassembler du monde aussi dès qu'il est au générique d'un film. Et ensuite, on retrouve une autre comédie sortie par SND.
Absolument, SND est donc partout dans ce top 10. Et puis, on parlait de Franck Dubosc, on parlait de Philippe Lachaud. Et là, on va parler de Didier Bourdon, qui lui aussi, quand son nom est au générique, ramène des entrées. Hein, puisque Cocorico va atteindre donc a atteint les 1 720 000 entrées. Il rajoute 118 000 entrées à son cumul. Il chute de 45%. Donc c'est très bien. Et c'est le deuxième meilleur succès pour Didier Bourdon, juste après Chasse gardée. Je pense que le film va atteindre les 1,8 million, 1,9 million. Franchement, les 2 millions, je pense, ne seront très, très compliqués à atteindre, malheureusement.
Alors, qui de Bob Marley ou de Cocorico fera le meilleur résultat final? C'est ça la question, d'une certaine façon, parce qu'ils sont à peu près au même niveau.
Moi, je dis Cocorico. Ouais. J'aurais dit 2 millions pour Cocorico. Moi, j'y crois, honnêtement.
Okay.
Il est quand même en cinquième semaine. Il reste au-dessus de la barre des 100 000 entrées, ce que je trouve super, honnêtement, en termes de tenue. Moi, je le vois arriver aux 2 millions.
Alors, un film qui aura plus de mal à aller chercher le million, c'est le huitième au classement, c'est 14 jours pour aller mieux.
Oui, 14 jours pour aller mieux, la sortie de Wild Bunch. Donc, le démarrage hein, qui cumule donc 133 000 avec 25 000 entrées d'avant-première. Bon, on peut imaginer une fin de vie à 250-300 000 entrées. Une petite déception quand même pour ce film.
Et puis après, du hors-film, avec le spectacle de Jérémy Ferrari, sorti par Pathé Live, qui totalise quand même hein, 85 000 entrées. Julien, c'est une très belle performance pour un Pathé Live.
C'est un carton, moi, je trouve. C'est vraiment un très beau score. Je crois qu'il a réuni plus de 500 000 spectateurs sur ses spectacles. Il est en train de monter. Non, je pense pas qu'on l'attendait. C'est un spectacle. Alors attends, parce que c'était un spectacle live qu'il était en train de jouer au même moment à Bercy, qui a été ou au Zénith. Bon, je sais plus, Bercy, Zénith, qui dure 3 heures, qui a été diffusé dans plus de 300 salles en même temps.
C'est quasiment jamais vu.
Mais je ne sais pas. Ouais. Peut-être Forestier avait fait un truc comme ça, mais je ne sais pas si ça avait déjà été fait.
En tout cas, ça a cartonné. Le dernier Jaguar, on en parlait tout à l'heure, qui clôture ce top 10 avec 81 000 entrées et 914 000 au compteur. Il devrait aller chercher lui aussi le million d'entrées. Ça va être encore un peu à la rame dans les jours qui viennent, puisque les vacances sont terminées. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur parmi les autres sorties? On peut signaler peut-être la salle des profs. Je ne sais pas si quelqu'un voulait en parler, mais la salle des profs, qui est indéniablement le carton de la semaine dernière parmi les sorties, le film de Tandem, qui totalise 73 000 entrées avec avant-première, 64 000 entrées sans les avant-premières, et une moyenne par copie de 412 entrées. La deuxième du top derrière Dune 2. Très, très belle sortie pour la salle des profs, ce film allemand récompensé au César allemand, justement.
Et alors, je suis allé voir justement sur le marché allemand pour voir à combien le film avait terminé.
Ouais.
Et en fait, pas si haut que ça, puisqu'il termine... Je me suis peut-être trompé, hein, j'ai peut-être pas eu, mais en tout cas, 250 000 entrées.
D'accord, donc rien à voir avec un succès italien qui sort en France cette semaine.
Et donc, gros démarrage avec 75 000 entrées, bravo.
Et il est juste derrière lui, mais c'est un moins bon démarrage, c'est le Comme un fils, le film de Nicolas Boukrieff, distribué par Le Pacte, qui lui rassemble 42 000 spectateurs sur beaucoup plus de copies, 238 contre 156. Donc voilà, démarrage plus timide, plus poussif. Également à signaler La vie de ma mère, qui fait 47 000 entrées à l'issue de son week-end avec avant-première. C'est un peu du même acabit que Comme un fils. Et tu parlais tout à l'heure, Julien, aussi Imaginary, le film d'horreur seul sur ce créneau, qui rassemble quand même 80 000 entrées. C'est pas mal. Hein.
Alors, il n'y a pas eu de grands films d'horreur, en tout cas depuis le début de l'année, qui ont rassemblé ou qui sont allés chercher des démarrages importants. Lui, il est comme Night Swim, à peu près, un tout petit peu en dessous, qui avait démarré autour de 80 000 entrées. Qui avait terminé à 180 000 entrées. Mmh. Et il a aussi un démarrage équivalent à Bogeyman, que Disney avait sorti, mais lui qui avait terminé à plus de 300 000 entrées.
Ma fille, est-ce que tu avais des choses à rajouter dans tes notes? Est-ce que des choses qui t'avaient frappé, peut-être?
Non, Anatomie d'une chute qui était à 18e place, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc il continue tranquillement sa carrière, parce qu'il est quand même à 29 000 entrées de plus. Et il en est à sa 29e semaine d'exploitation, donc c'est quand même énorme. Et peut-être que même le boom Oscar le fera grappiller quelques entrées en plus. Voilà, et la zone d'intérêt, je tenais aussi à souligner qu'il en a sa 6e semaine, il a 708 000 entrées. Donc, on ressouligne que c'est une belle performance.
Très, très grosse performance, effectivement, pour le film distribué par BAC. Il y aura encore pas mal de choses à dire. À signaler que Les Chèvres, le film de Pathé, lui... On est à 170 000 entrées au bout de 3 semaines et qu'il rejoint donc ces comédies qui avaient une vocation à devenir des gros succès et qui n'ont pas atteint ou qui peinent à atteindre les 200 000 entrées. On se souvient du Christophe Baratier avec Gérard Jugnot et Kev Adams l'année dernière. On se souvient aussi de Noël Joyeux en décembre dernier. C'est un peu dans le même ordre de chiffres.
Et il y a L'Empire aussi qui a eu du mal à exister. En tout cas, pas au moment de sa sortie ou en tout cas au niveau de la presse.
Ouais. Il s'écroule complètement.
C'est ça.
Il va 57% pour le film de Bruno Dumont et 82 000 entrées au cumul.
Et je reviens sur Dali.
Oui.
Et il n'est pas loin de Yannick. Je crois qu'il est à 3000 entrées de Yannick.
Il va devenir le plus gros succès. Quentin Dupieux va battre son propre record consécutivement.
Bah, on attend le prochain film dans 3 mois.
Voilà,
c'est l'âge d'or de Quentin Dupieux.
Je crois que c'est avec Vincent Lindon. En tout cas, il en a tourné un avec Vincent Lindon, il me semble. Écoutez, on a fait le tour de ce box-office. Est-ce qu'on peut parler maintenant des films à venir pour ce mercredi? C'est l'heure peut-être du sondage.
Absolument, c'est l'heure du sondage. Alors aujourd'hui, on a choisi donc 4 films qui sortent et on vous a fait voter sur X, ex-Twitter finalement. On a 2 studios, 2 sorties de studios, à savoir Warner et Universal. Universal pourrait Il reste encore demain, leur film italien, et Heureux gagnant, le film de Warner. Et ensuite, on a Dans la peau de Blanche Houellebecq, la sortie de Bach, et enfin La nouvelle femme, la sortie d'Ad Vitam. Arrive en tête Heureux gagnant avec 45% des voix. Et en dessous, on a donc Il reste encore demain avec 34% des voix. Enfin, nous avons là Dans la peau de Blanche Houellebecq avec 16% et puis La Nouvelle Femme avec 5%. Mais on a de nombreuses autres sorties, n'est-ce pas Aurélien ?
Oui, alors avant d'en parler, je voulais juste laisser la parole à Julien qui nous dise un petit mot sur Il reste encore demain, parce que je crois que tu as pu rencontrer la réalisatrice du film.
Alors tout à fait, on a eu la chance avec Tom de pouvoir lui poser quelques questions. C'était vraiment intéressant parce que en Italie, c'est devenu un phénomène. Malheureusement, la réalité a rejoint la fiction, puisqu'il y a eu en même temps un féminicide. Et c'est devenu un phénomène puisque le film, c'est le seul film, quoi, en tout cas, c'est le seul pays où il y a un film qui a battu Super Mario, Barbie ou Oppenheimer. Il a fait plus de 5 millions d'entrées.
Pour un film noir et blanc, c'est quand même fou.
Pour un film noir et blanc qui se passe juste après la guerre, sur un sujet difficile, délicat, qui plus est, c'est vrai que alors partout dans tous les pays, on en est tous au même niveau, mais c'est vrai que personne ne s'attendait à un tel succès, personne ne s'attendait à ce que le public réponde aussi bien. Moi, je disais, alors j'ai eu la chance justement d'interviewer Paola, qui est dans le métier depuis 20 ans, qui est une comédienne très connue, mais à la base beaucoup plus populaire, qui faisait des sketchs, etc. Mais elle explique super bien, elle parle magnifiquement bien de son film. Donc, courez aller le voir, parce que c'est important, c'est fort, ça apprend plein de choses. Et je lisais que c'était en hommage aux grands-mères, et même il y avait les grands-mères qui emmenaient les petits-enfants voir le film. C'est devenu générationnel.
Voilà, et donc l'interview de Paola Cortellezzi, est-ce que je prononce bien son nom ?
On est bon.
C'est à retrouver sur Débriefing, peut-être au moment où vous écoutez ce podcast, ou si vous l'écoutez au moment de sa publication, ce sera le week-end prochain. Donc voilà, le film est à l'affiche à partir de cette semaine. Également, alors ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a trois films avec un titre blanc sur fond rose. On parlait tout à l'heure de ce film, il reste encore demain. Il y a également Scandaleusement Vôtre, distribué par Studio Canal, Les Rois de la Piste de Tony Cliffa, distribué par Apollo. Et puis, à noter également les sorties, donc, outre La Nouvelle Femme et Heureux Gagnant, de Chroniques de Téhéran chez ARP, Tiger Strips, c'est chez Jour de Fête, The Sweet East, c'est chez Potemkin, Miss Hermanos chez JHR, La Beauté du Geste chez Al Ouest, c'est du côté des films du Whippet. Et puis après, sur moins de 10 écrans, chez Bobine Film, on a Diogène et aussi Nommé, je ne sais pas comment on dit, chez The Dark, un distributeur que je ne connaissais pas. Et côté reprise, la reprise notamment chez les Acacias, après Le Nom de la Rose tout récemment, du Voyeur, le film de Michael Powell, ressorti également en 4K il n'y a pas longtemps. Voilà, ce sera à voir. Et également un événement. Alors, ce sera intéressant de regarder les entrées chez un CGR Event pour Final Fantasy VII Advent Children, qui existe déjà depuis longtemps, mais qui ressort à l'occasion du remake de Final Fantasy VII, sorti tout récemment sur PlayStation 5. Donc, il faudra voir comment ce film, qui n'a jamais été exploité en salle, fonctionne ou pas. Écoutez, donc, je crois qu'on a été exhaustif. 14 sorties pour la semaine prochaine. Parmi les événements, signalons qu'il y a Metropolitan qui tient sa convention, ça c'est pour les professionnels, dans quelques jours. Donc il y aura certainement des petits échos sur le film d'Alex Garland qui sera présenté à cette occasion. Et les rencontres du sud d'Avignon qui démarreront également en début de semaine prochaine. Voilà, vous savez tout. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous serez nombreux à écouter également l'entretien de avec la réalisatrice d'Il reste encore demain. Et on se retrouve la semaine prochaine avec là encore un bel invité. Ce sera un invité que vous avez déjà entendu sur ce plateau, mais qui revient pour nous parler de son actualité. À très vite. Merci à toutes et à tous.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne journée.
Et bonne anniversaire à tout le monde.